Allons, elle va me donner la comédie, pensa Philippe de Poitiers. De nature comme d'apparence, elle ressemble trait pour trait à Robert. Ils se haïssent trop d'être pareils. Je gagerai qu'elle va me parler de lui. Il ne se trompait pas. Mao se mit aussitôt à vitupérer ce mauvais neveu, ses manœuvres, ses intrigues, et la ligue qui l'animait contre elle. Pour Mao comme pour Robert, toutes les affaires du monde passaient par le comté d'Artois qu'ils se disputaient depuis 13 ans. Leurs pensées, leurs démarches, leurs amitiés, leurs alliances, leurs amours même, se rattachaient toujours de quelque façon à cette lutte. L'un n'entrait dans un clan que parce que l'autre appartenait au clan adverse. Robert ne soutenait une ordonnance royale que parce que Mao la désapprouvait. Mao était d'avance hostile à Clémence de Hongrie parce que Robert avait donné appui au mariage. Cette haine qui excluait tout accord, toute transaction, dépassait son objet et l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas entre la géante et le géant une sorte de passion à rebours, inconnue d'eux-mêmes et qui se fût mieux apaisée dans l'inceste que dans la guerre. « Toutes ces méchancetés avancent mon trépas, » dit Mao. « J'ai su que mes vassaux, assemblés par Robert, ont prononcé serment contre moi. C'est cela qui m'a remué les humeurs et mis dans l'état où je suis. » « Ils ont juré ma mort, monseigneur !» dit Thierry d'Hirson. Philippe de Poitiers se tourna vers le chanoine chancelier et vit que c'était lui, et non Mao, qui était malade, de peur. « J'allais monter à l'ost pour remettre de l'ordre dans ma bannière, » reprit Mao. « J'avais fait sortir, comme vous voyez, mes atours de guerre. » Elle désigna vers un coin de la pièce un imposant mannequin revêtu d'une longue robe en maille d'acier et d'une cotte de soie brodée aux armes d'Artois. À côté était préparé le haume et les gantelets. Mao soupira. Elle regrettait l'occasion perdue. Elle aimait bien se vêtir en chevalier comme un homme. « Et puis j'ai appris la fin de cette glorieuse chevauchée qui coûte au royaume l'argent et l'honneur. Ah ! L'on peut dire que votre pauvre frère n'est guère fortuné et que tout ce qu'il entreprend va à la traverse. En vérité, je vous le dis, comme je le crois, vous auriez fait un bien meilleur roi que lui, et c'est grande pitié pour tous, mon beau fils, que vous soyez né le second. Votre père, que Dieu l'ait en grâce, en soupirait souvent. »
Depuis le scandale de la tour de Nesle et la détention de Jeanne à Dourdan, le comte de Poitiers n'avait revu sa belle-mère que dans les cérémonies publiques, lors des funérailles de Philippe le Bel, par exemple, ou bien aux séances de la Chambre des Pairs, mais jamais en privé. Il se marquait de la froideur. Pour une reprise de contact, l'ouverture était grosse. Mao, dans le compliment, ne prenait pas la petite mesure. Elle invita son gendre à s'asseoir plus près de son lit. Hirson et Sully se retirèrent vers la porte.
« Mais non, mes bons amis, vous n'êtes point de trop. Vous savez bien que je n'ai pas de secret pour vous, » leur dit-elle.
En même temps, elle leur faisait signe d'un mouvement de doigt de sortir de la pièce. Or, il était peu habituel chez les grands seigneurs de recevoir un visiteur tête à tête. Leurs appartements étaient constamment occupés ou traversés par des parents, des familiers, des vassaux, des serviteurs. Les entretiens se déroulaient généralement au vu de tous ou au moins en présence d'un gentilhomme de la chambre ou d'une dame de parage. D'où la nécessité de l'allusion, du demi-mot. Lorsque les deux interlocuteurs principaux se retiraient dans une embrasure de fenêtre pour converser à voix basse, les gens de leur suite affectaient le détachement, mais se sentaient facilement ou vexés ou inquiets. Tout entretien à porte close prenait une allure de complot. Et c'était bien l'allure que Mao voulait donner à son entretien avec le comte de Poitiers, ne fût-ce que pour le compromettre un peu et le faire mieux entrer dans son jeu. Aussitôt qu'ils furent seuls, elle lui demanda
« Quels sont vos sentiments pour ma fille, Jeanne ?»
Comme il hésitait à répondre, elle entama sa plaidoirie. Certes, Jeanne de Bourgogne avait eu des torts, de grands torts même, en n'avertissant pas son mari des intrigues d'alcôve qui déshonoraient la maison royale, et en se faisant complice, volontairement, involontairement, qui pouvait le dire, du scandale. Mais elle-même n'avait point péché de corps ni trahi le mariage. Tout le monde le reconnaissait, et le roi Philippe lui-même, pourtant si courroucé, en était convenu, puisqu'il avait assigné à Jeanne une résidence particulière, sans jamais signifier que cette réclusion fût à vie.
« Je sais, j'étais au conseil de Maubuisson, » dit le comte de Poitiers qui souhaitait couper à ses souvenirs amers.
« Et comment Jeanne aurait-elle pu vous trahir, Philippe ? Elle vous aime, elle n'aime que vous, qu'il vous suffise de vous rappeler ses cris lorsqu'on l'emmena dans son chariot noir. Dites à monseigneur Philippe que je suis innocente. J'en ai encore le cœur fendu, moi, sa mère, d'avoir dû assister à cela, et depuis 15 mois que la voilà à Dourdan, je le sais par son confesseur, jamais un mot contre vous. Rien que les paroles d'amour et les prières à Dieu pour regagner votre cœur. Je vous assure que vous avez là une femme plus fidèle, plus dévouée que beaucoup, et qui a été durement châtiée. »
Elle rejetait toutes les fautes, toutes les culpabilités sur Marguerite de Bourgogne. Et cela avec d'autant plus de tranquillité que Marguerite, premièrement, n'appartenait pas à sa proche famille, et secondement, n'existait plus. C'était Marguerite la pécheresse, la dévergondée, la catin. C'était Marguerite qui avait entraîné Blanche, pauvre enfant inconsciente, et qui avait abusé l'amitié de Jeanne. D'ailleurs, à Marguerite elle-même ne devait-on pas concéder quelques excuses? L'espoir d'être reine de Navarre ne suffit pas à tout. Et quelle femme ne se fût attristée du mari qu'on lui avait donné? En définitive, Mahô tenait le hutin pour le premier responsable de son infortune.
« Il paraît que votre frère n'est pas très bien membré. »
On m'a toujours assuré au contraire qu'il était normal de ce côté-là, encore qu'un peu effarouché ou violent sur la chose, mais nullement empêché, répondit le comte de Poitiers.
« Vous n'avez point comme moi les confidences des femmes, » répliqua Mahô.
Elle se redressa, massive, sur ses oreillers, regarda son gendre droit dans les yeux.
« Philippe, parlons clair, » dit-elle. « Croyez-vous que l'héritière, la petite Jeanne de Navarre, soit de lui ou du galant de Marguerite ?»
Philippe de Poitiers se frotta un instant le menton.